VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, 11h à Ouagadougou, le même temps en temps universel, des milliers de partisans de l'opposition ont manifesté aujourd'hui au Kenya alors que le pays s'enfonçait dans l'incertitude politique au lendemain du retrait du chef de file de l'opposition, Raila Odinga, de l'élection présidentielle du 26 octobre. La controversée commission électorale, IBC, a promis d'annoncer d'ici peu la marche à suivre après ce nouveau coup de théâtre aux implications incertaines dans la saga électorale kenyan. Mais son interprétation des lois et de la jurisprudence risque fort de faire l'objet de critiques acerbes de l'opposition ou du parti au pouvoir dans un contexte politique de plus en plus polarisé. Le gouvernement togolais a annoncé mardi soir l'interdiction d'organiser toute marche dans les rues du pays pendant les jours de semaine, quelques heures seulement après un nouvel appel de l'opposition à manifester contre le pouvoir prévu le 18 octobre. Kayi Lawson nous en dit plus.
Les Togolais ne pourront plus organiser des marches politiques dans le pays de lundi à vendredi. Seuls les week-ends peuvent être dédiés à ce type de manifestation publique. C'est une décision du gouvernement togolais. Yak Damhan, ministre de la Sécurité.
En semaine, c'est meeting. Week-end, vous pouvez marcher. Ce que souvent nous déplorons, c'est cette violence qui accompagne ce que les gens appellent manifestation publique pacifique. Parce qu'on dit pacifique, les gens profitent à agresser d'autres compatriotes. Les marches sont interdites en semaine.
Ce mardi matin, la coalition des 14 partis de l'opposition a annoncé pour le mercredi 18 octobre prochain une marche. Brigitte Adjamagbo de la dite coalition.
Une marche pour dire à la CEDEAO que nous ne sommes pas d'accord avec le référendum que l'institution semble encourager.
Il est à souligner que ce ne sont pas toutes les manifestations publiques qui sont interdites en semaine. Les meetings et les réunions politiques sont autorisés. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, le général Djibril Bassolé a bénéficié hier dans la soirée d'une liberté provisoire. L'ancien ministre de Blaise Compaoré était incarcéré depuis 2015 pour implication présumée dans une tentative de coup d'État manqué. Les Libériens, eux, attendent aujourd'hui, sous une pluie battante et dans le calme, les premiers résultats de la présidentielle qui doit désigner pour 6 ans le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique et prix Nobel de la paix en 2011. La Commission électorale nationale, la NEC, doit annoncer cet après-midi les premiers résultats du scrutin qui conclut un processus historique de transfert démocratique des pouvoirs après les 2 mandats remportés par Mme Sirleaf depuis 2005. Parmi les favoris issus d'une vingtaine de candidats figurent le sénateur Georges Weah, légende du football africain battu par Mme Sirleaf au second tour en 2005, puis comme candidat à la vice-présidence en 2011. En lice également le vice-président Joseph Boakai, l'avocat et vétéran de la politique Charles Bromskin et les puissants hommes d'affaires Benoni Uri et Alexander Cummings ou encore l'ex-chef de milice Prince Johnson. Outre leur futur chef de l'État, les plus de 2 millions d'électeurs du Libéria étaient aussi appelés à voter pour renouveler les 73 sièges de la Chambre des représentants. Le scrutin présidentiel se déroule en 2 tours, à moins qu'un candidat n'obtienne la majorité absolue dès le premier tour. Les législatives ne comportent qu'un seul tour. L'UNICEF tire la sonnette d'alarme sur la malnutrition au Mali. La situation est critique dans la région de Gao et de Tombouctou, touchée par l'insécurité. Solange Niamoulissa a joint Eliane Louti. Elle est la chef de la communication de l'UNICEF au Mali.
Nous venons en fait de recevoir les dernières données de l'enquête SMART, qui est une enquête qui est menée chaque année au Mali, qui nous donne un survol de la situation de la malnutrition des enfants. Et cette année, cette enquête montre qu'au Mali, la situation reste sérieuse. Ça veut dire qu'il y a encore 10% des enfants, donc 1 enfant sur 10, qui souffrent de malnutrition aiguë au Mali. Et que dans certaines régions, cette situation est même devenue critique, particulièrement dans les régions du nord, c'est-à-dire Tombouctou et Gao, où on a des taux qui ont franchi la barre des 15%. Donc on est vraiment dans une situation de crise nutritionnelle. En termes de chiffres, donc maintenant que nous avons cette enquête, on a pu faire la projection pour l'année 2018 et selon nos estimations, en 2018, on aura une augmentation des cas. On s'attend à ce qu'il y ait 165 000 enfants maliens qui vont souffrir de cette forme la plus sévère, la malnutrition aiguë.
Et pourquoi les régions de Tombouctou et Gao?
Globalement, sur le pays, la situation n'est pas bonne. Tombouctou et Gao étaient déjà des régions qui étaient durement touchées par ce phénomène avant, mais qui se retrouvent encore dans une situation aggravée aujourd'hui. Il n'y a pas une seule cause qui est derrière ça, il y a vraiment plusieurs facteurs. Quand on regarde la situation dans le nord du pays, il y a bien sûr la question de l'instabilité. L'instabilité qui entraîne encore aujourd'hui les migrations et les déplacements des populations. Et les populations qui sont en déplacement sont toujours plus à risque d'insécurité alimentaire que d'autres populations. Dans les régions du Nord, il y a aussi la question de l'accès aux services sociaux, surtout l'accès à l'eau et à l'assainissement. Il faut savoir qu'au Mali, il y a des maladies comme la diarrhée qui tuent beaucoup d'enfants. Cette diarrhée est souvent couplée à la malnutrition. Dans ces régions du Nord où l'accès à l'eau et à l'assainissement est très difficile, ça c'est un facteur qui aggrave la malnutrition des enfants. Mais il y a aussi la question d'un certain manque de connaissances de bonnes pratiques. Ça veut dire au niveau des ménages, il y a des gestes qui sont simples et peu coûteux pour prévenir la malnutrition, mais qui ne sont pas forcément connus par tous.
Qu'est-ce qui doit être fait?
Il y a bien sûr le besoin de venir en aide à tous ces enfants qui sont touchés. Une augmentation de 23 000 cas en 2018, ça veut dire que ça c'est tous les enfants qui ont besoin d'un traitement immédiat pour sauver leur vie. Mais en même temps, il faut investir beaucoup plus dans la prévention, c'est-à-dire la promotion de ces bons gestes dès les premiers jours de l'enfant, comme l'allaitement, comme aussi le lavage des mains au savon et à l'eau propre. Donc il y a des gestes comme ça qu'on peut promouvoir dans les communautés pour aussi renforcer la résilience des familles pour prévenir de futures crises nutritionnelles.
Eliane Louti, la chef de la communication de l'UNICEF au Mali. Un responsable syndical au Zimbabwe a été arrêté pour avoir comparé à un mort vivant le président Robert Mugabe, âgé de 93 ans, qui règne d'une main de fer sur le pays depuis 37 ans. À la tête d'une association professionnelle de vendeurs, Sten Zvorvazaza a été arrêté mardi et inculpé d'insultes au chef de l'État, a indiqué dans un communiqué l'ONG Avocat du Zimbabwe pour les droits de l'homme qui a pris sa défense.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Il est 7 minutes à Washington. La campagne de répression systématique contre les Rohingyas a été conçue pour expulser définitivement la minorité musulmane de son foyer dans l'État Rakhine, dans l'ouest de la Birmanie, a déclaré aujourd'hui l'ONU. Les attaques brutales contre les Rohingyas dans la partie septentrionale de l'État Rakhine ont été bien organisées, coordonnées et systématiques avec l'intention non seulement de pousser la population en dehors de la Birmanie, mais aussi de les empêcher de revenir chez eux, a conclu une enquête de l'ONU basée sur l'interview de dizaines de réfugiés qui ont fui vers le Bangladesh depuis le 25 août. Le gouvernement espagnol se réunit en urgence aujourd'hui pour décider d'une réponse à la signature par les dirigeants indépendantistes en Catalogne d'une très redoutée déclaration d'indépendance unilatérale signée mais suspendue dans l'attente d'un dialogue avec Madrid. La décision du président séparatiste catalan ne laisse aucun Espagnol indifférent. C'est le cas de Pape Moussa Diaye, c'est un Catalan d'origine sénégalaise.
Je suis optimiste. Le seul problème, c'est que il y a eu, avec tout ce qui s'est passé le 1er octobre et tout ça là, avec la violence et tout, donc ça a un peu soulevé un peu des indépendantistes et ça a créé d'autres types d'indépendantistes. Et moi, je pense qu'il faudrait mieux qu'on nous donne ce qu'on a besoin et ce qu'on réclame et puis qu'on demeure dans le territoire espagnol et qu'on reste en même temps espagnol et catalan, quoi.
Pape Moussa Ndiaye, un Catalan d'origine sénégalaise. Corée du Nord, alors que le président Donald Trump examine la gamme d'options militaires dont il dispose, les forces américaines ont fait avec la Corée du Nord et le Japon une démonstration de force commune contre Pyongyang via des exercices conjoints de tirs de missiles au large des côtes ouest et est de la péninsule coréenne. M. Trump rencontrant James Mattis, son ministre de la Défense, et le général Joseph Danforth, le chef d'état-major interim, a discuté de ses options pour répondre à toute forme d'agression nord-coréenne et, si nécessaire, pour empêcher la Corée du Nord de menacer les États-Unis et leurs alliés avec des armes nucléaires, peut-on lire dans un communiqué de Sarah Huckabee Sanders, la porte-parole de la Maison-Blanche. Et puis, des discussions sont menées à Raqqa, dans le nord syrien, par des responsables locaux et des figures tribales pour évacuer les civils encore piégés dans les réduits aux mains des djihadistes de l'État islamique, a annoncé hier la coalition internationale amenée par Washington. Fin de ce journal, le prochain dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Alors, les